La population recule ces deux dernières années. L'ISEE a publié sa dernière étude sur la démographie calédonienne. Une délégation du FLNKS ira bien à Paris, mais pour des bilatérales avec l'État, pas pour une réunion avec les partenaires. Décision annoncée à l'issue d'un bureau politique réuni hier. Animation ce matin dans le quartier de Carcopino. Plus de 1000 élèves du lycée La Pérouse ont participé au cross annuel de l'établissement. La guerre en Ukraine, principal sujet de l'Assemblée générale de l'ONU. Emmanuel Macron a accusé la Russie d'avoir provoqué un retour des impérialismes. En sport, le grand jour pour 6 cyclistes calédoniens. Ils vont participer cet après-midi au contre-la-montre du relais mixte par équipe des championnats du monde en Australie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. La population calédonienne a baissé ces deux dernières années. L'ISEE a publié une étude sur la démographie du territoire pour les années 2020 et 2021. Et selon l'ISEE, nous sommes passés, Nicolas Legrand, sous la barre des 270 000 habitants.
Une étude menée hors période de recensement grâce aux données communiquées par les états civils des mairies, mais aussi aux informations liées au trafic à l'aéroport international. Et il en ressort tout d'abord que les naissances ont diminué et que les décès, quant à eux, ont augmenté de manière significative en 2021. Écoutez Olivier Fagnot, le directeur de l'ISEE.
Sur les naissances, on poursuit une tendance observée sur les dernières années de baisse progressive du nombre de naissances, qui a été accentuée quand même sur l'année 2020 et 2021. Alors là, on l'explique par la situation sanitaire, qui a pu reporter un certain nombre de projets de naissances, et le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de mariages pendant cette période non plus. Mais on l'explique aussi par le fait qu'il y a un certain nombre de femmes en âge d'avoir des enfants qui ont probablement quitté le territoire. Ça, c'est pour les naissances. Concernant les décès, effectivement, on a une augmentation du nombre de décès très, très marquée en 2021. Très marquée, c'est 28% de plus en 2021 que la moyenne annuelle observée sur une période hors crise sanitaire. Donc, c'est quelque chose de très important. Si bien que le solde naturel, qui est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès, apporte moins de population que c'était le cas auparavant. Habituellement, on est de l'ordre de 2500 personnes par an qui accroissent automatiquement la population. Et là, on est passé sous les 2000 personnes.
Et autre facteur de l'évolution démographique, le solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre le nombre de personnes qui s'installent en Calédonie et celles qui quittent le territoire. On se souvient que pour la première fois, il avait été négatif lors du recensement pour la période 2014-2019. Et le phénomène se poursuit.
La deuxième composante de la population, c'est le solde migratoire. Donc c'est la différence entre le nombre de personnes qui quittent définitivement le territoire et celles qui arrivent pour s'y installer. On était parti d'un constat sur la période 2014-2019 avec 10 000 personnes qui avaient quitté le territoire. Et en fait, on estime que la tendance observée sur la fin de la période 2014-2019 se poursuit en 2020-2021. On estime qu'on est autour de 3 000 en 2020 et 2021 par année. Il faut rappeler que c'est une période très particulière où il était plus facile de quitter le territoire que d'arriver sur le territoire. Donc je dirais que c'est un mouvement conjoncturel, mais qui fait que quand vous comptabilisez le nombre de personnes arrivées par le solde naturel et le nombre de personnes qui ont quitté le territoire, on a une baisse de la population qui s'établirait en 2021 à moins de 270 000 personnes.
Au 1er janvier 2019, nous étions 271 290 habitants et selon l'ISEE, nous étions 269 808 habitants au 1er janvier 2022. La population a donc baissé au cours des deux dernières années. Un phénomène nouveau mais conjoncturel selon Olivier Fagnot, le directeur de l'ISEE.
C'est un élément marquant de cette étude mais qui est lié à une situation atypique et conjoncturelle. Donc ça ne veut pas dire que ça va se prolonger forcément comme ça sur les prochaines années et c'est en cela que l'année 2022 va être intéressante à observer puisque c'est l'année où il n'y a plus de contraintes ni sur l'arrivée au territoire ni sur le départ.
Il ressort également de cette étude de l'ISEE que la population va continuer de vieillir sous l'effet simultané de la baisse de la fécondité et de l'allongement de la durée de la vie. La baisse progressive du nombre moyen d'enfants par femme réduit la part des moins de 15 ans dans la population. Il représente en 2021 20,3% des Calédoniens et à l'inverse, les plus de 65 ans, eux, augmentent de 0,3 points par an.
Et ce bilan démographique de l'ISEE et pour les années 2020-2021 est disponible sur le site de l'Institut www.isee.nc. Notez que dans un communiqué, le MEDEF-NC réagit à cette étude. L'organisation patronale indique que cette baisse de la population entraîne inévitablement une diminution de la consommation et donc une baisse de l'activité économique et des ressources fiscales et sociales. Le MEDEF demande d'urgence des mesures favorisant la relance économique afin de faire face à la baisse de la consommation des Calédoniens, à l'alourdissement de la pression fiscale et à la problématique de l'inflation importée, sans quoi nous serions entraînés, je cite, dans une grave impasse économique et sociale. Des discussions bilatérales avec l'État, mais pas de comité des partenaires pour l'instant. C'est la position du FLNKS. Quelques jours après la visite de Jean-François Carenco, réunis en bureau politique, les quatre composantes ont décidé de se rendre à Paris, mais uniquement pour parler avec l'État des compétences régaliennes, Elisabeth Noir.
Une position qui est encore un peu confuse et qui demandera sûrement des éclaircissements, des clarifications dans les jours qui viennent. Toujours est-il que le bureau politique élargi du FLNKS était réuni hier à Dabéa pour arrêter sa position et qu'il a annoncé et qu'il estime que le lien est renoué avec l'État. Le FLNKS qui accepte l'invitation à Paris qui avait été lancée par Jean-François Carenco, mais dans un premier temps seulement pour des discussions bilatérales. C'est ce que nous a dit Alozio Sacco, l'actuel animateur du bureau politique.
Nous avons toujours dit, après le 12 décembre 2021, que le FLNKS laissait passer les élections nationales et législatives et la mise en place du nouveau gouvernement et entamera avec l'État et bilatéral entre les colonisateurs et les peuples colonisés et porté par le mouvement de libération FLNKS. Et donc, dans un premier temps, l'État avait proposé le format comme des signataires et nous avons, par une convention, refusé ce comité de signataires proposé par le ministre d'État, M. Darmanin. Et là, la deuxième solution de l'État, c'est de nous envoyer M. Carenco, donc ministre délégué chargé des affaires d'outre-mer. Et donc, le lien a été rétabli et sur notre proposition, donc l'État est d'accord de proposer ce bilatéral le mois prochain à Paris. Et donc, par rapport à cela, le FLNKS a répondu favorablement. Nous irons le mois prochain en délégation format biopolitique à la rencontre de l'État pour engager ces bilatérales.
Et de quoi vous voulez parler dans ces discussions?
Nous allons parler des compétences régaliennes. Parce que la troisième consultation, nous, on considère que nous avons gagné et que l'État nous a volé cette consultation et donc il nous faut discuter avec l'État sur les compétences régaliennes.
Le FLNKS estime donc qu'il a obtenu gain de cause avec l'organisation de bilatérales avec l'État le mois prochain à Paris. Des bilatérales pour parler du transfert des compétences régaliennes, mais le FLNKS ne s'engage pas sur la suite des discussions ou sur un éventuel comité des partenaires.
L'État avait proposé, la contrepartie a proposé un autre format, celui-là plus institutionnel, concernant donc tout ce qui touche à la société calédonienne. Donc là, c'est plus institutionnel et se tiendra peu après. Mais ça, c'est l'État qui est maître de ce format et de ces discussions. Quant à nous, ce qui nous préoccupe, c'est plus la discussion avec l'État en bilatéral.
Les indépendantistes qui envisagent ensuite de parler des sujets qui concernent la vie quotidienne des Calédoniens, mais pas de la question institutionnelle.
Toute l'année 2023, selon nous, l'État aussi est d'accord. Cette année-là sera consacrée aux discussions sur tout ce qui touche à la société calédonienne, c'est-à-dire leur vie de tous les jours, et notamment dans des sujets comme le nickel, l'énergie. Mais bien entendu, ce deuxième volet concerne les Calédoniens, bien sûr, mais l'État, il est aussi partie prenante, puisque comme dans l'énergie, comme Enercal, comme dans lesquels l'État est encore partie prenante de ces secteurs. Et donc, on admet qu'ici, une partie donc, de ces questions sera discutée ici, et l'autre volet à Paris, c'est ce que nous avons convenu. Hein.
Et c'est à l'État de mettre en œuvre la méthode de discussion et le calendrier, ajoute Alozio Sacco, une position exprimée au nom du bureau politique du FLNKS, mais l'Union calédonienne semble plus réservée. Elle réunira jeudi une commission exécutive pour faire connaître sa position.
Et dans un communiqué publié dans la soirée d'hier, Elisabeth, le BP du FLNKS précise les décisions qu'il a prises.
Le bureau politique indique qu'une bilatérale entre le FLNKS et l'État se tiendra en octobre 2022 à Paris et qu'elle traitera uniquement des compétences régaliennes et de leur transfert. Il précise que cette rencontre se fera à un niveau supérieur, c'est-à-dire avec le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, et où la Première Ministre, et où le Président de la République. Le bureau politique indique également que l'existence d'une réunion bilatérale sur les sujets régaliens a été conditionnée par la possibilité d'enclencher par la suite une convention politique. Cette convention politique se tiendra donc à la suite des bilatérales. Elle permettra de fixer ensemble la liste des sujets à traiter et elle validera la méthode de travail. Il s'agira d'établir le cahier des charges pour aboutir à l'évolution politique de la Nouvelle-Calédonie. Pour le FLNKS, cette trilatérale de méthode sera composée principalement des groupes institutionnels, gouvernement, congrès, province et mairie, et de l'État, le FLNKS qui demande que la bilatérale et la trilatérale de méthode soient complètement dissociées concernant le lieu, les sujets et les délégations.
Voilà donc pour les décisions arrêtées hier par le bureau politique élargi du FLNKS. Il précise que les quatre composantes du FLNKS tiendront leur congrès respectif à l'issue des rencontres bilatérales et de la convention politique pour décider de la suite à donner, et que c'est ensuite le congrès du FLNKS qui devra valider l'ensemble. 11h41, une première pause dans ce journal. Dans un instant, c'est le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Faire sa rentrée, préparer son avenir. Prendre des résolutions, ne pas toujours les tenir. Tenir bon, découvrir l'armée de terre, libérer son potentiel, s'engager.
Vous préparez votre avenir professionnel, l'armée de terre recrute dans plus de 16 domaines d'activité.
Le carburant est trop cher? Passez à l'électrique. Avec le leader mondial BYD. Découvrez les tout nouveaux BYD Dolphin et BYD Atto 3. Bijoux de design et de technologie. Dans votre concession Autovolt aux 4 rue Fleming à Ducos. Autovolt, l'expert du véhicule électrique en Nouvelle-Calédonie.
Ne manquez pas le rendez-vous Canal+. Toutes les formules à partir de Sélection Plus sont à 5000 francs par mois pendant 6 mois. Offrez-vous du cinéma ultra récent. Matrix 4, Encanto, Scream, Tokyo Vice. Et vivez les grands rendez-vous sport en 4K ultra HD. La Ligue des Champions et la Première Ligue pour seulement 5000 francs par mois pendant 6 mois. Offre valable jusqu'au 30 septembre pour tout nouvel abonnement de 24 mois à partir de la formule Sélection Plus. Bénéficiez pendant 6 mois du tarif unique de 5000 francs par mois. Le mois en cours est offert. Offre soumise à condition. Plus d'informations sur canalplus-calédonie.com.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La suite de l'actualité en Calédonie avec les faits divers et cet accident qui s'est produit à 9h30 ce matin à Poya, dans le col du Bonhomme. Une camionnette s'est retrouvée sur le toit. Les circonstances ne sont pas encore connues, mais le véhicule est seul en cause. Deux personnes sont blessées. On ignore pour l'instant l'importance des blessures. L'une des victimes doit tout de même être évacuée par hélicoptère. La circulation se fait en ce moment de manière alternée le temps que le camion soit retiré de la chaussée. Le salon DigiExpo ouvre en ce moment à la Maison des Artisans de Nouville. Jusqu'à demain, les entreprises pourront trouver des experts pour se faire accompagner dans la transition numérique de leur structure. Des aides financières existent notamment de la part de la province sud. Il sera aussi possible de réaliser un diagnostic numérique sur le stand du Cloister OpenNC. En plus de la trentaine d'exposants présents, des ateliers, des mini-conférences sont organisés pendant la durée des salons. Il est donc ouvert aujourd'hui jusqu'à 18h et demain de 7h30 à 17h. Les élèves d'une classe de CM1 de l'école Marie-Avé à Wemo ont été récompensés ce matin par la province sud après avoir remporté le challenge d'aider le tricot rayé mobile. Pendant 2 semaines, ils ont adopté avec assiduité les transports en mode doux, Isabelle Pelletier.
Ils ont marché, ils ont fait du vélo, de la trottinette ou du covoiturage ou sont venus en bus, seuls avec leurs parents, frères et sœurs ou leurs copains. Depuis 5 ans, la province sud organise le challenge d'aider le tricot rayé mobile pour inciter les élèves de primaire et leurs familles à utiliser les modes doux pour se rendre à l'école dans le cadre de la semaine de l'écomobilité. Les précisions de Marie-Jo Barbier, présidente de la commission de l'enseignement de la province sud.
Depuis 2017, la province sud a lancé l'opération d'aider le tricot rayé pour justement inciter les élèves à participer à la semaine de l'écomobilité. 100% des élèves ont joué le jeu et donc sont venus à pied, en trottinette, en covoiturage, les parents se sont organisés, et en bus scolaire. Et je tiens à remercier également les parents qui jouent le jeu sur ce dispositif.
Faire un geste pour la planète, mais aussi pour sa condition physique. Les élèves de cette classe de CM1 ont été conquis par les modes doux. On les écoute.
Je suis partie en vélo avec papa de la maison jusqu'à l'école et on revenait à vélo.
J'ai fait du vélo, de la marche et du covoiturage.
Est-ce que tu vas continuer après?
Oui.
Même quand il fait chaud?
Oui. Le gilet aussi, ça nous protège. Comme ça, les voitures, quand on veut traverser le passage piéton, ils nous voient.
Je suis allée en trottinette jusqu'à l'école.
J'ai marché tous les jours avec mon copain Thomas.
C'était bien, ça faisait du bien au corps et au moins on gaspillait pas d'essence ou polluer. Et on va toujours, tous les jours à pied.
Comme j'habite devant l'école, j'arrivais presque tout le temps premier.
Je suis venue en bus scolaire avec mon copain
pour aider la nature.
Et on arrive en trottinette, je trouve qu'on arrive en forme à l'école. Et voilà.
Les élèves ont été récompensés par un diplôme et un sac à dos individuel contenant un gilet fluo et une gourde. Les deux autres classes participantes appartiennent au groupe scolaire de Gréland.
La CCI prépare le lancement de son réseau Alumni. L'objectif est de regrouper les anciens élèves qui sont passés par ces deux écoles, l'EGC, l'école de gestion et de commerce, et le CFA, le centre de formation des apprentis. 4500 personnes ont fréquenté ces deux structures au cours des 30 dernières années. Béatrice Pajot-Baldi est animatrice des réseaux Alumni à la CCI.
Les réseaux Alumni, ça a plusieurs dimensions. Donc, c'est ensemble, on est plus fort. Donc, c'est créer un maillage, c'est de partager ses expériences. Il y a des gens qui ont acquis des expertises, qui ont peut-être des choses à apporter aux autres, à la fois aux étudiants et aux autres anciens. C'est rencontrer ses pairs. C'est un accélérateur de carrière, que ce soit pour les étudiants qui intègrent le marché du travail ou que ce soit pour les anciens qui peuvent être en reconversion ou qui cherchent à développer de nouveaux business.
C'est quoi concrètement ? C'est obtenir un coup de piston, comme on dit ?
Ah non, c'est pas obtenir un coup de piston, c'est du réseau, tout à fait. C'est-à-dire, quelqu'un a une offre d'emploi, quelqu'un cherche un emploi, on essaye de faire matcher les deux, que ce soit pour des étudiants ou des anciens. Quelqu'un recherche des compétences. Enfin, il y a mille manières de créer du réseau. Non, c'est pas du tout du piston. En revanche, c'est de dire que on a fait le même parcours, on a appartenu à la même entité. On a forcément des valeurs communes. Et le dernier point aussi, qui n'est pas négligeable, c'est de la convivialité et de la solidarité.
Les étudiants et les anciens élèves sont invités à répondre à un questionnaire sur le site de la CCI jusqu'à lundi, ce qui permettra à la Chambre consulaire de répondre au mieux aux attentes des futurs membres du réseau Alumni. Béatrice Pajot-Baldi, animatrice de ces Alumni à la CCI, était donc notre invitée ce matin, interrogée par Nicolas Legrand. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre site rrb.nc. Puis toujours en bref, notez que le conseil municipal de Nouméa se réunit ce soir à 18h. 8 points sont inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit pour l'essentiel de signatures de marché d'appel d'offres.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure de votre rendez-vous SMS avec notre question du jour. Êtes-vous favorable au retour des bateaux de croisière le plus rapidement possible en Calédonie ? Si oui, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à notre question d'hier, 60% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent défavorables à la dématérialisation des démarches administratives. Ils sont 40% à l'inverse à y être favorables. Revenons à l'actualité à Nouméa où il y avait de l'ambiance ce matin au quartier Carcopino. C'était en effet le traditionnel cross du lycée La Pérouse qui s'est déroulé tout au long de la matinée avec de nombreux enfants participants. Ambiance.
C'était difficile avec la chaleur, ouais.
Les montées, elles étaient dures.
Après les épreuves, à chaque fois, ça fait du bien, on se sent mieux.
Ça allait en vrai, je pensais que ça allait être plus dur.
C'était net et aussi difficile. Bah, on a tenu jusqu'au bout et voilà.
L'important, c'est de participer.
Voilà, c'est ça.
On n'a rien lâché, quoi. La Pérouse, on est là.
Bah, là, on est habillé en tant que pêcheur. On a trouvé ça drôle, on s'est dit bah pourquoi pas. On n'a pas trop le droit de courir avec les cannes à pêche, c'est dommage.
C'est notre dernière année, bah on voulait faire un truc un peu spécial. Et là, bah, on s'est dit bah autant faire un truc un peu marrant.
Et du coup, bah, cannes à pêche, chapeau, lunettes de soleil, débardeur. Il n'y a rien de tel.
Gilles Kiwé, proviseur du lycée La Pérouse. Comme chaque année, donc on a ce cross. Beaucoup de satisfaction parce que ça permet aussi de décompresser un petit peu aussi au niveau de l'établissement. Puis je crois que les élèves ont besoin d'une petite coupure. Toujours dans une très bonne ambiance, très bien organisée par l'équipe qui est là aussi. On a plus de 1500 élèves sur le lycée La Pérouse. Tous les ingrédients sont au rendez-vous.
Vous venez de gagner la course, c'est ça ?
Oui, je m'appelle Inès Martin, je suis en terminale 6, j'aime bien courir, j'ai essayé de faire de mon mieux. La tactique, c'est que je suis partie vite au début et après j'ai maintenu la vitesse, donc du coup j'ai créé un écart et ça a permis d'avoir de l'avance. Quoi.
Participer à ce cross, pour vous, c'est toujours un bon moment ?
Ah oui, c'est génial parce qu'il y a un esprit d'équipe, on s'encourage tous, tout le monde applaudit, on danse, on chante, enfin, c'est vraiment génial l'ambiance.
Même après le cross, vous n'êtes pas fatigué, c'est ça ?
Non, ça va.
C'est animé par un DJ et nous, on met de l'ambiance. On essaye de que ce soit un moment de joie, quoi. On fait tout pour qu'il y ait une bonne ambiance et que tout puisse bien se passer. Même après l'année dernière, on n'a pas eu de cross, donc maintenant, on se rattrape.
Un reportage de Mickaël Juneski. 11h50, une nouvelle pause dans un instant. L'actualité à l'étranger, nous évoquerons l'ouverture cette nuit pour nous de l'Assemblée Générale Annuelle de l'ONU consacrée en grande partie à la guerre en Ukraine.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu.
Derrière nos agents, des clients comme vous, au service de la même exigence. Rendez-vous sur notre nouveau site office.opt.nc. OPT, le monde à portée de main.
Les soldes, c'est aussi chez Bridgestone. Bénéficiez d'une remise de 15% sur l'ensemble de nos produits, même le pneu poids lourd. Professionnel ou particulier, contactez-nous au 28 61 77 ou sur notre page Facebook Bridgestone Nouvelle-Calédonie.
Besoin de bricoler le week-end ? Ça tombe bien ! Allwoods, votre spécialiste du bois, ouvre désormais le samedi matin de 7h30 à 11h30. Allwoods, c'est tout l'univers du bois pour la construction et en plus, il y a du stock. Une seule adresse à retenir, 22 rue Descartes à Ducos. Plus d'infos au 23 38 19.
Le restaurant Le Cuvin, à l'étage du Quai Ferry, vous propose une gastronomie française à base de produits frais élaborés par nos chefs. La qualité de l'accueil et nos plats vous assureront un moment unique. Le Cuvin, ouvert midi et soir, du mardi au samedi, de 10h à 23h. Réservez vite au 47 20 20.
Radio Rythme Bleu, la première radio de Nouvelle-Calédonie.
La suite d'InfoMag, Jean-François Baudin.
L'essentiel des débats à l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies qui s'est ouverte cette nuit à New York est consacré à la guerre en Ukraine et ses conséquences. Le secrétaire général Antonio Guterres dit craindre une grogne planétaire dans les mois qui viennent en raison de l'explosion du coût de l'énergie et des matières premières. Et de son côté, Emmanuel Macron a tenu à être ferme sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Il est une chose sûre et certaine. Au moment où je vous parle, il y a des troupes russes en Ukraine. Et à ma connaissance, il n'y a pas de troupes ukrainiennes en Russie. C'est un état de fait. Plus cette guerre dure, plus elle devient menaçante pour la paix en Europe, mais aussi pour celle du monde. Elle nous conduit vers une conflictualité élargie, permanente, où la souveraineté et la sécurité de chacun ne dépend plus que de rapports de force, de taille des armées, de la solidité des alliances ou des intentions des groupes armés et des milices. Où ceux qui se considèrent comme forts cherchent à soumettre par tous les moyens ceux qu'ils considèrent comme faibles. Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. La France le refuse et recherchera obstinément la paix.
Emmanuel Macron, à l'unisson de plusieurs pays occidentaux, a qualifié de mascarade les référendums d'annexion prévus à la fin du mois dans quatre régions d'Ukraine occupées par les forces russes. Notez que le président ukrainien devrait à son tour s'exprimer par vidéo devant l'Assemblée générale des Nations Unies la nuit prochaine pour nous. La situation est de nouveau calme à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais en début de semaine dernière, de violents combats ont de nouveau éclaté entre les armées des deux pays. Une tension inédite depuis la guerre de 2020 et l'accord de paix dans le Haut-Karabakh. Des attaques de l'Azerbaïdjan qualifiées d'illégales par Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américains, Nicolas.
Oui, selon le dernier bilan du Conseil de sécurité arménien, plus de 200 militaires du pays ont été tués la semaine dernière dans de violents affrontements et 20 soldats ont été faits prisonniers. Côté azerbaïdjanais, le bilan est à ce jour de 79 militaires tués selon Bakou depuis le début de ces affrontements. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé lundi à une paix durable entre les deux pays. Le président russe Vladimir Poutine, de son côté, a lui appelé l'Arménie et l'Azerbaïdjan à faire preuve de retenue. Depuis 2020, la Russie déploie en effet une force de maintien de la paix à la frontière. L'armée russe, qui est par ailleurs mobilisée en Ukraine, n'a pas réussi à mettre fin aux attaques déclenchées mardi de la semaine dernière. Néanmoins, le chef du Kremlin a indiqué entretenir un dialogue politique intensif avec l'Arménie, qu'il soutient financièrement et militairement. En 2020, vous le rappeliez, la guerre avait fait 6500 morts et avait obligé l'Arménie à céder des territoires à Bakou. Et avant cela, dans les années 90 déjà, un conflit pour le Nagorno-Karabakh avait fait 30 000 morts.
En métropole, les policiers en ont ras-le-bol. Selon l'Observatoire de la réponse pénale, les agressions contre les forces de l'ordre ont progressé de 30% ces 8 dernières années. Et ce qui les fait le plus réagir, c'est qu'il s'agit de plus en plus de violences volontaires. Nous sommes devenus une cible, estime David Lebars, secrétaire général du syndicat UNSA, interrogé sur CNews.
Être policier, c'est être une cible. On avait, il y a encore 20 ans, une sorte de frange criminelle, de délinquance qui pouvait s'en prendre à la police pour lui échapper. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a, ce sentiment qui se répand. Et quand il y a une partie de la classe politique ou d'associations très politisées qui passent une image qui consiste à faire croire à des gens qui pourraient y croire naïvement d'ailleurs, puisque les réseaux sociaux, les polémiques font que la police, elle est toujours mise par certains dans le camp des méchants. Mais la police est une institution républicaine, elle n'est pas dans un camp, elle est au bénéfice de tous, elle est là pour protéger nos concitoyens. Et vous savez, toute cette petite musique, moi je suis extrêmement rancunier par rapport à ceux qui la font passer, parce que ça contribue à faire sécession ou à faire du séparatisme. La police, elle est au service de tous. Moi j'étais commissaire dans des banlieues, quand j'allais faire des réunions de quartier, la population, elle vient, elle est en demande de sécurité. liberté. Il faut arrêter de faire croire que la police, par exemple, opprime les jeunes des banlieues. C'est insupportable. Dans les réunions de quartier en banlieue, vous avez des centaines de personnes qui viennent et qui demandent de la sécurité et qui demandent qu'on les débarrasse des délinquants. Donc il faut pas non plus faire croire que ces gens-là, ils sont victimes, c'est faux. Ils sont victimes des délinquants. Ils demandent de la police, de la justice et il faut leur en donner.
David Lebars, le secrétaire général du syndicat UNSA Police. La France insoumise dans la tourmente après les révélations concernant Adrien Quatennens, qui s'est mis en retrait de son poste de coordinateur national du mouvement. Il a reconnu avoir giflé sa femme lors d'une violente dispute conjugale. Jean-Luc Mélenchon a tweeté « Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis ma confiance et mon affection. » Un soutien qui place son mouvement en porte-à-faux et en difficulté, comme lorsque Mathilde Panot, chef de file des députés de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, a été questionnée à ce sujet.
Nous avons un communiqué de presse qui a été fait par la coordination des espaces de la France Insoumise, dans lequel nous nous retrouvons toutes et tous.
Et même Elisabeth Borne a été interrogée sur le sujet alors qu'elle présentait son plan vélo à Matignon.
Je ne sais pas si c'est tout à fait le lieu de traiter de ça. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Après, c'est évidemment extrêmement choquant d'avoir quelqu'un qui banalise des violences intrafamiliales. Enfin, voilà, ce n'est pas une outrance près, on va dire.
Voilà, il est 11h56. Une nouvelle pause dans ce journal et dans un instant, c'est l'actualité sportive.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
En ce moment, chez Calais Pneus, c'est 40% de remise sur votre deuxième pneu Michelin ou BF Goodrich. Et oui, jusqu'au 30 septembre, grâce à Calais Pneus, remettez votre voiture en forme avec notre offre musclée. Vous avez bien entendu, moins 40% sur le deuxième pneu Michelin ou BF Goodrich acheté dans l'un de nos trois centres Calais Pneus. Alors, pour une voiture regonflée à bloc avant l'été, passez chez Calais Pneus du Causse, PK4 ou Conné.
Socapor, votre partenaire sanitaire depuis 1970, vous présente la marque Tona, la qualité allemande, associée à la simplicité et au design. Jusqu'au 8 octobre, profitez d'une remise découverte de 35% sur les ensembles de salles de bain River 800 et River 1200. Socapor Plexus, 63 rue Fernand Forest à Ducos.
Socapor, donnons du sens à votre décor.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actualité sportive.
Avec Decathlon, suivez toute l'actualité sportive du jour. Toutes les infos et tous les résultats locaux, nationaux et internationaux.
Decathlon, le sport pour tous, tout pour le sport.
Et on part tout de suite en Australie pour parler cyclisme. Michael Juneski, c'est en effet le grand jour pour l'équipe de Nouvelle-Calédonie. Les 6 coureurs sélectionnés vont prendre part au contre-la-montre en relais mixte des championnats du monde.
Florian Barquette, David Chavitz, Ryan Lachny, Manon Brasseur, Sandra Gerrard et Patricia Temro s'élanceront à 15h27 précise sur le circuit de 28 km 200 à Wollongong, près de Sydney. À quelques heures du départ, le président du comité régional de cyclisme, Tom Yvonne Oudendijk, ne cache pas que c'est l'excitation côté calédonien.
Très bel engouement et des étoiles plein les yeux en fait de découvrir en fait cet événement et d'y prendre part, c'est une chance fabuleuse. Donc ils sont tous émerveillés et puis on a encore du mal un petit peu à réaliser, mais c'est touche du doigt quand même le rêve qui est là et on est plein d'excitation hein, de prendre part aujourd'hui à ce départ. Ils partiront en deuxième équipe après l'équipe de Tahiti qui partirait leur premier. Et voilà, donc ils sont tous prêts, tous hâte de partir.
Les Calédoniens ont pu faire la reconnaissance du circuit hier et ils s'annoncent très techniques.
Donc hier mardi, ils ont pu faire la reconnaissance du parcours, plusieurs tours de reconnaissance d'ailleurs, à allures différentes pour travailler un petit peu les points de repère sur les passages de relais. Un parcours qu'ils estiment très technique quand même, voilà, avec des endroits assez délicats à négocier. Surtout lorsqu'ils arriveront en pleine descente ou en plein élan sur ces virages ou sur ces petites chicanes. Voilà, malgré tout des routes larges.
Tommy Van Oudendijk, le président du comité régional de cyclisme que nous avons pu contacter sur place en Australie. Les coureurs calédoniens sont donc dans la cour des grands. Ils auront face à eux les meilleures nations du cyclisme. Dans ces équipes, on retrouvera entre autres le champion de France 2021 Rémi Cavagna, le néerlandais Mathieu Van Der Poel, deux fois vainqueur du Tour des Flandres, l'italien Filippo Ganna, champion du monde du contre-la-montre 2020 et 2021, le suisse Stefan Kung, deuxième du contre-la-montre dimanche dernier, mais aussi l'australien Michael Matthews, vainqueur du maillot vert sur la Grande Boucle en 2017, ou encore le Danois Magnus Kort Nielsen, porteur du maillot à poids au début du Tour de France cette année et vainqueur de la 10e étape.
On parle football, Mickaël, pour faire un point sur les sélections calédoniennes qui sont engagées dans plusieurs tournois océaniens.
Deux affiches Calédonie-Salomon pour le prix d'une. L'équipe A affrontera ce soir les îles Salomon en match amical au Vanuatu. L'heure de leur entrée en lice dans la Prime Minister Cup. Ils se sont inclinés contre Fidji 1-0. Les joueurs de Johan Sidaner joueront contre les Salomonais à 18h. Ce sera la même affiche demain, jeudi, cette fois-ci pour les moins de 19 ans dans le cadre des qualifications au mondial de leur catégorie d'âge. Les Calédoniens affronteront les îles Salomon en demi-finale de la compétition à Tahiti. En cas de qualification en finale, ils décrocheront au passage leur billet pour la Coupe du Monde des moins de 19 ans. Un match programmé donc ce jeudi à 13h30 pour nous.
On continue de parler football, mais sur la scène nationale, avec un nouveau forfait pour l'équipe de France avant son match contre l'Autriche.
Lucas Digne, le latéral d'Aston Villa de 29 ans, pourrait être absent plusieurs semaines en raison d'une possible fracture de fatigue. Il souffre de la cheville droite, de quoi remettre en cause même sa possible sélection pour la Coupe du Monde. Il avait déjà été convoqué pour remplacer Théo Hernandez au même poste. Le match France-Autriche, on le rappelle pour le compte de la 5e journée des phases de groupe de la Ligue des Nations, est prévu ce vendredi matin, coup d'envoi à 5h45. Et par ailleurs, Kylian Mbappé a finalement bien participé aux opérations marketing des Bleus, alors qu'il menaçait de ne pas y prendre part après que la Fédération française s'est engagée à réviser dans les plus brefs délais la convention sur les droits à l'image des joueurs. L'enjeu était crucial pour la FFF puisque le shooting de ce mardi est celui qui doit permettre aux partenaires des Bleus de réaliser les prises de vue nécessaires à la confection de certaines publicités qui seront diffusées au moment de la Coupe du Monde. Je le rappelle, elle débutera le 20 novembre au Qatar.
Et on termine par cette affaire qui secoue le rugby français avec certains de ses représentants et pas des moindres qui sont face à la justice.
Le 8e jour du procès de l'affaire dite Laporte Altrade. Des peines de prison fermes ont été requises contre Bernard Laporte, le président de la FFR, Mohamed Altrade, le président du club de Montpellier, mais aussi entre autres Serge Simon, le vice-président de la FFR. Le ministère public a également requis des peines d'interdiction de toute fonction en lien avec le rugby avec une exécution provisoire. Des peines lourdes donc pour un supposé contrat d'image de 180 000 euros entre Bernard Laporte et le groupe Altrade, payé à la signature, jamais exécuté et remboursé fort tardivement. Le président de la FFR serait intervenu 4 fois en faveur de Mohamed Altrade pour les partenariats maillots, le projet de rachat du club de Gloucester, la réformation d'une décision de la Ligue concernant des reports de matchs et des supposées pressions sur le président de la commission d'appel. Ils sont donc jugés pour des délits de corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêt, abus de confiance et abus de biens sociaux. Le procès continuera la nuit prochaine pour nous à Paris.
Voilà, parce qu'il s'agit pour l'instant uniquement de réquisition. Il est 12h03, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. 13h, ce sera le rappel des titres de l'actualité avant une nouvelle session d'info à partir de 16h. Je vous souhaite une belle après-midi.